Trinville PM. Politique.
Je suis très déçu. Notre gouvernement s'est très déçu avec cette décision. Et nous allons continuer à travailler fort pour les travailleurs.
Qu'est-ce qu'il y a là, dans votre plan là, sur les actions que vous pouvez prendre?
Nous allons examiner toutes les options. For us, we're going to work with our province. As the premier said to the prime minister, this is not a political issue. This is not about pointing fingers. This is about standing up for the automotive sector.
Voici Paul Journet et Carl Bélanger.
Alors, c'est le ministre Navdeep, dis-je bien, Baines, donc ministre fédéral de l'industrie, là, si je résume, qui disait, bon, je suis déçu et tout le reste, mais qui disait aussi, il va falloir qu'Ottawa travaille avec le gouvernement de l'Ontario. Il ne faut pas commencer à se blâmer les uns et les autres. Il faut se tenir pour notre industrie de l'auto. Pour en discuter, Carl Bélanger, consultant stratège. Bonjour, Carl.
Salut, Bernard.
Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour, Paul.
Salut, Bernard.
Carl, ben vas-y, commence-nous ça, là.
Écoute, c'est toute une claque d'en face pour la population d'Oshawa, pour la ville d'Oshawa. Personne n'avait vraiment vu venir l'annonce. Puis il faut dire que l'industrie automobile dans Oshawa, c'est vraiment ça qui a fait grandir la ville. Ça fait depuis 111 ans qu'on construit des automobiles à Oshawa, tu comprends? Et l'équipe junior, les Generals, ben c'est nommé pour la General Motors. Puis aujourd'hui, ben on ferme la dernière usine. Là.
C'est un bon point, ça. Ils vont-tu rebaptiser leur équipe de Ligue junior majeure de l'Ontario? C'est vrai. Ben... Non, mais c'est vrai.
Il n'y a plus de lien. Il est où le lien? Écoute, c'est pour les gens d'Oshawa aujourd'hui, là, l'avenir est pas très, très rose. Je veux dire, qu'est-ce qui va rester? Il y a non seulement l'usine de Ford, mais il y a toutes les usines connexes, les fournisseurs de pièces, tout ce qui est autour de l'industrie, c'est quelque chose. Et l'autre chose, évidemment, c'est que c'est une grosse usine, là. C'est un gros morceau, c'est un gros lapin de terre. Tu fais quoi avec ça si tu fais plus d'automobile? C'est tout un casse-tête pour les gouvernements. Puis les gouvernements, ben ils ont pas vu venir l'annonce. Ils se sont fait prendre les culottes baissées. Il y a personne qui a vu ça venir. Même s'il y avait des rumeurs l'année passée que ça pourrait fermer en juin dernier, c'est pas arrivé. Donc on a peut-être échappé le ballon de ce côté-là. On peut écouter si tu veux bien le ministre Duclos, Jean-Yves Duclos, tout d'abord, et ensuite le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui ont réagi à la nouvelle ce matin.
Alors plusieurs idées ont déjà commencé à circuler, mais il faut absolument retenir les meilleures options parce que ces travailleurs ont besoin de notre aide.
Yeah, we're disappointed in GM. You know, we supported GM, as everyone remembers, years ago when they were in trouble. To say we're disappointed is an understatement. This decision wasn't made in the last few months or last 4 or 5 months. This was made well over a year ago for their global restructuring. And I asked myself, why couldn't we be one of the winners? Did we not create an environment here at the province to attract companies to keep them here?
Ouais, là, Ford qui dit pourquoi on fait pas partie des gagnants, là? Pourquoi on fait pas partie de ceux qui ont gardé leur usine? Il dit, je suis très déçu parce que quand ils étaient dans le trouble GM, on les a appuyés, on les a aidés. Et là, on est très, très déçu. C'est un euphémisme.
Écoute, les aider, tu dis, on a donné 3 milliards de dollars en 2009 pour sortir GM du trouble.
On a donné ou on a été actionnaire? On
écoute,
a mis de l'argent.
Il y a eu des prêts, il y a eu de l'argent public, on a obtenu des actions.
Ouais.
On avait 12% des actions au début de 2015. On a tout vendu.
Mais on n'a rien perdu là-dedans, là.
Oui, on a perdu quelque chose.
On vient de perdre toute l'industrie automobile.
Financièrement, l'investissement qu'on a fait...
Financièrement, on a perdu quelque chose. De mémoire, il y a un total, je pense, de près de 10 milliards d'aides qui avaient été consentis. Il y avait des prêts, des prises en participation dans le capital.
Ouais.
Il y a à peu près 85% de ce qu'on a mis là-dedans qu'on a récupéré. Donc, quand même, 15% de pertes, 15% sur à peu près 10 milliards.
Là, tu parles de toute l'industrie automobile, là, parce qu'il y avait Chrysler là-dedans, il y avait tous les autres. Puis Chrysler, on vient d'annuler leur dette, justement, là, quelques semaines de ça, quelques mois.
Ouais.
Mais dans le cas de GM, c'était 3 milliards, c'était 12% des actions. Puis aujourd'hui, il reste quoi de ça? Mais il reste rien. On vient de fermer la dernière usine à Oshawa. Écoute, depuis 1993, GM a fermé 5 usines au Canada. 5! Il y avait l'usine à Scarborough qui faisait les minivans. Il y a Sainte-Thérèse, évidemment, en 2004, qui a fermé. C'est celle qui faisait notamment des camions.
Ouais.
Une usine à Windsor qui s'occupait beaucoup de la transmission, tout ça.
Ouais.
À Oshawa, ben c'est la troisième usine qu'on ferme. 2004, 2009, puis évidemment maintenant 2018. Donc, il reste quoi, là? 3 milliards de dollars qu'on a mis, 12% des actions, on a tout vendu, puis on perd tout.
OK, mais Carl, je ne veux pas diminuer en rien, là, mais si je ne m'abuse, puis ça sera à vérifier, Mais le 3 milliards qu'on a pris en actions, on n'a pas perdu quand on a revendu nos actions.
Dans l'ensemble, si tu y vas dans le total, là, parce qu'on ne veut pas isoler les prêts puis les actions, disons, le total de l'aide à GM, on a récupéré 85 % de la mise, donc on a perdu 15 %. Pour Chrysler, on a récupéré entre 70 et 80 % de mémoire, le trois quarts, donc on a quand même perdu 25 %, c'est pas rien.
Donc, le 10 milliards, c'était juste pour GM, ça? Je pensais que c'était pour l'ensemble de l'industrie.
Moi, je te parle des pourcentages de ce qu'on a récupéré par rapport à ce qu'on a perdu.
T'as raison.
Au moins
que 10 15 milliards...
% de perte GM, proche de 25 % de perte avec Chrysler. Ouais.
T'as raison que 10 milliards, c'était pour l'ensemble de l'industrie. GM, c'était particulièrement 3 milliards. Mais le point que je veux faire, c'est qu'on était actionnaire, on avait voix au chapitre. Puis là, quand ils sont sortis de la crise, on a tout vendu.
On aurait été mieux de rester actionnaire, c'est ça que tu dis?
Ben, à tout le moins qu'on puisse avoir un poids décisionnel là-dedans. Là, ils ont, quand c'est mal et bien, là, on a tout vendu. Là, ils sont partis avec leurs affaires. Puis là, ils nous ferment les usines d'en face.
Paul, comment tu réagis, toi?
Ben, pas très bien. Écoute, c'est quand tu regardes ça dans l'ensemble, c'est des industries névralgiques. On les a aidés. Puis quand même, il y a des emplois qu'on perd.
Puis là, je le disais en début d'émission, là, ils annoncent 5 fermetures, il y en a 4 aux États-Unis, il y en a une au Canada. C'est pas comme si. Ouais. Je suis pas en train de dire que c'est pas grave, là, OK? Je veux juste que ça soit bien clair. C'est grave. On perd des beaux emplois, puis on parle des 2500 emplois directs, mais il y a beaucoup d'emplois indirects, là. On s'entend que c'est pas une bonne nouvelle, c'est une très mauvaise nouvelle. En même temps, je veux juste mettre les choses en contexte. C'est une restructuration. Ils ferment une usine sur 5 au Canada, les 4 autres aux États-Unis. Ils ferment des usines ou des modèles qui se vendaient mal ou qui se vendaient plus, étaient fabriqués. Donc, et ils amorcent aussi un virage vers la fabrication de véhicules, ou ils accélèrent un virage vers la fabrication de véhicules hybrides.
Ouais. Et ça, on peut pas être contre cette vision-là. Là, je pense que Paul et moi, on va s'entendre qu'on a besoin de meilleurs véhicules au niveau de la consommation. Mais quand on entend les gouvernements dire que toutes les options sont sur la table, écoute, j'écoutais Benoît Charrette tantôt, là. Attendez-vous pas à un blanc de sauvetage crédible pour Oshawa?
Non, mais je pense que c'est fini, là. Malheureusement, je pense que c'est fini.
Mais là, les conservateurs ont demandé un débat d'urgence aux communes, mais c'est les conservateurs qui ont agi en 2009 et en 2015.
Quand ils ont vendu les actions, tu dis, toi.
Exactement.
Oui, puis la ligne dure du syndicat, parle-moi-en donc, Carl, toi, l'ancien néo-démocrate,
ben,
là.
Ben oui, mais
il est resté dans l'âme, j'en doute pas.
J'ai quelques doutes sur, évidemment, l'approche d'Unifor et de leur président Jerry Diaz, qui était notamment là, très présent dans les négociations sur le nouvel ALENA, et qui ont tenu la ligne dure à Oshawa à plusieurs reprises.
Ça veut dire quoi, ça, la ligne dure?
Ben, écoute, il y a eu des conflits de travail très sévères à Oshawa, notamment en 2008, et avant ça, ils ont obtenu des garanties que les usines resteraient en place, mais aujourd'hui, et là, c'est le point du syndicat qui va réagir vers 14 heures cet après-midi, mais il dit que la GM ne respecte pas l'esprit de la dernière convention collective, mais ils vont faire quoi?
Mais quand Benoît, tout à l'heure, nous disait c'est une vieille usine dans laquelle, dans le fond, il faudrait quasiment la fermer puis la réoutiller de réoutiller de zéro tellement l'équipement puis la machinerie à l'intérieur de cette usine-là est complètement dépassée.
Écoute, t'as pas tort. Puis quand je te disais tantôt... T'sais, cette usine-là, c'est une grosse usine. Là. Je pense que c'est 10 000 pieds carrés. Là. C'est gros.
Il y a déjà eu... En 1980, il y avait 23 000 personnes qui travaillaient là. Aujourd'hui, c'est 2500. Benoît me disait qu'il y a plus avant 80, là, je sais pas, il doit parler des années 60 ou 70, il y avait jusqu'à 40 000 personnes qui travaillaient là. Imagine-toi la grandeur, toi.
Je dis 10 000, je voulais dire 10 millions de pieds carrés. C'est gros, là. C'est une grosse affaire.
En tout cas, on va voir comment le politique va réagir. Je vais m'arrêter, Paul. Je sais que tu veux renchérir, mais je veux me garder du temps pour les autres sujets, notamment la rentrée parlementaire. C'est quand même important. Ça recommence demain à Québec avec un nouveau gouvernement. On vous en parle après la pause. De retour avec Carl et Paul. Paul, parle-nous donc de ce retour au Parlement avec un nouveau gouvernement de la CAQ.
C'est une session en forme de blitz. On a déjà eu la nomination du Conseil des ministres, des discours de François Legault, des déclarations des ministres, mais l'Assemblée nationale ne siège pas encore. On ne peut pas déposer de projet de loi. Donc, ça commence cette semaine. Demain, élection du président de l'Assemblée nationale. C'est la première chose qu'il faut faire pour que l'Assemblée nationale siège et soit fonctionnelle. Tout indique que c'est François Paradis, le député caquiste, qui va être choisi choisi par ses pairs pour être président. Et ensuite, ça va aller vite et c'est là que ça va commencer à être intéressant. Mercredi, discours inaugural de François Legault. Jeudi, première période de questions. Et ensuite, il va rester 7 jours pour déposer des projets de loi parce que l'Assemblée nationale, elle ne va siéger que pour 2 semaines.
Mais ils vont siéger les vendredis, hein?
Oui, c'est ça, c'est en intensif, mais quand même, ça fait 2 petites journées de plus. Mm-hmm. Mais c'est pas beaucoup de temps. Discours inaugural, c'est toujours un moment fort. Le premier ministre en profite pour préciser quelles seront ses orientations, où il s'en va.
Sa vision.
Moi, ce qu'on m'indique, c'est qu'un des messages forts, ça va être d'expliquer que c'est un gouvernement au service des gens, des Québécois, qui veut être proche des électeurs et loin des lobbies. Parce qu'on sait que quand tu essaies de faire des changements, entre autres en éducation puis en santé, ça prend pas de temps que rapidement, tu as plein de groupes de pression qui te disent, on n'est pas capable,
on peut pas.
Écoute, les engagements, ça risque, ce que François Legault va dire, ça risque d'être assez proche des engagements électoraux. Par exemple, éducation, on peut s'attendre à l'entendre nous parler des maternelles 4 ans, commission scolaire, dépistage précoce, ajout de ressources. En santé, il va miser sur la première ligne. En finance, il va parler des finances personnelles, de ses engagements, de remettre un peu d'argent dans les poches des électeurs, entre autres, avec les taxes scolaires. Et par la suite, ça va devenir le fun parce qu'on va commencer dans le dépôt de projet de loi.
Oui. Et on sait déjà un peu avec quoi ils s'en viennent. Hein?
Oui. C'est toujours intéressant quand même, les nouveaux gouvernements, les débuts de session, parce qu'on envoie des signaux très forts sur les priorités, sur la façon de faire du gouvernement. Et là, on va déposer plusieurs projets de loi, mais écoute, corrige-moi pas si j'ai tort, mais je m'attends pas à ce qu'on en adopte d'ici Noël.
Je m'attends même pas à ce qu'on en dépose beaucoup. Moi, mon impression, c'est que parmi les projets de loi qui vont être déposés, tu vas avoir celui sur les nominations aux 2/3 pour, par exemple, le nouveau commissaire de l'UPAC, parce qu'on sait qu'on est dans un processus de sélection du successeur de Robert Lafrenière. Aussi, les taxes scolaires. Le cannabis, si on suit aux engagements électoraux, ce serait que l'âge limite passe de 18 à 21 ans, puis peut-être aussi une interdiction de la consommation de cannabis dans les lieux publics. Est-ce qu'il va y avoir d'autres projets de loi? Peut-être un ou deux que je ne vois pas venir, mais pas ben plus. S'il y en a d'autres, ça m'étonnerait. Évidemment, des gros morceaux comme le projet de loi pour l'interdiction de signes religieux, ça prend du temps à écrire. Faut que tu consultes les juristes de l'État. On verra pas ça cette année, peut-être même pas l'hiver prochain. Il va falloir attendre quelques mois.
Oui, je suis d'accord avec toi. Tant qu'à le faire, aussi bien le faire comme il faut, là, à un moment donné, c'est bien beau respecter l'engagement. Ils ont dit qu'ils feraient ça dans la première année. Alors, qu'ils prennent le temps de le faire comme du monde. Là.
Mais ce qui va être compliqué quand on parle des engagements, c'est parce que les engagements, à un moment donné, là, ça commence à s'additionner. Le meter, il tourne et il ne cesse de tourner. Et les libéraux, je pense que Carlos Letao est en train déjà, là, c'est un des premiers à dire, écoutez, regardez l'argent qu'il y a dans le plan quinquennal des infrastructures. Faites le décompte. Regardez les engagements de la CAQ. Ça ne fonctionne pas. Parce que François Legault avait dit qu'il n'allait pas ajouter au budget des infrastructures. Il allait s'en tenir aux 100 milliards en 10 ans. Or, il n'ajoute pas d'argent, mais il ajoute des projets. Il y a les maternelles 4 ans. Il y a le troisième lien pour relier Québec à Lévis. Il y a l'élargissement de l'autoroute 30, prolongement des autoroutes 13 et 19, et aussi, entre autres, un hôpital en Outaouais.
Mais ça, c'est une nouvelle, Paul, qu'on n'arrivera pas à financer tous les projets d'infrastructure dans le premier mandat. Il me semble que ce n'est pas une nouvelle, ça.
C'est pas une nouvelle. Écoute, c'est quelque chose que c'est une analyse. Moi, je trouve que ce n'est pas une nouvelle, c'est un secret qui était trop bien gardé parce qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est bien beau en campagne électorale, là, y aller un engagement à la pièce avec ton annonce du jour, mais à un moment donné, il faut faire le cumulatif de tout ça, puis se demander, est-ce qu'on a de l'argent pour tout faire maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être laissé de côté ou à tout le moins mis sur le rond de poil à côté, qu'on prétendait le faire?
Où est allé dans le temps? Oui. Mais moi, je vais vous dire là, mon sentiment, là, puis je dirais la même chose si c'était un gouvernement d'une autre couleur. Là. On peut-tu leur laisser le temps d'arriver aussi un peu, là? Franchement, je trouve ça un peu ridicule.
ridicule.
De la part des libéraux en particulier qui sont au pouvoir depuis 2003 de façon quasi ininterrompue, à peine 6 semaines après l'élection ou 7 semaines après l'élection, qui sont déjà en train de varger dans le nouveau gouvernement. Écoute, mais, s'ils savent c'est quoi le gouverner, là, puis je pense qu'ils le savent là, parce qu'ils ont gouverné longtemps, ils savent très bien qu'à un moment donné, il faut aussi permettre aux nouveaux ministres de poser leurs valises. Il y en a plusieurs là-dedans qui n'ont jamais même été députés. Fait que moi, je veux juste s'en appeler un petit peu à, je sais pas, un certain sens de l'équilibre.
Oui, sauf que, écoute, toute la rhétorique de la CAQ était sur l'urgence d'agir, sur les crises dans les différents secteurs.
Ouais.
Alors évidemment, quand tu parles comme ça, quand tu fais campagne comme ça, tu montes les attentes. Et pour l'opposition, ben c'est le beau jeu, c'est de monter ces attentes-là en disant, mais écoutez, on s'attend à ce que le gouvernement agisse. Ouais. Ils l'ont promis, ils l'ont dit, ils sont fait élire là-dessus.
Bon, ouais, mais tu sais, moi, il y a deux choses distinctes. Là. Moi, je suis le premier à donner une chance aux coureurs et à être patient, par exemple, avec la question des stages non rémunérés, de la réforme du droit de la famille, plein d'autres dossiers. Je réalise que les ministres viennent d'arriver en poste. On va leur donner le temps. Mais pour ce qui est des engagements forts qu'on a promis sans savoir si on était capable de les offrir, ça, c'est pas une question de patience pour le nouveau gouvernement en place. Là.
Ben, moi, ce que je comprends, c'est que les engagements qu'ils ont pris, je parle pas des infrastructures, les engagements qu'ils ont pris, ils ont mis dans leur cadre budgétaire. Ça, ils sont supposés avoir l'argent pour les payer, là. En tout cas, on verra bien. Hein? On va en parler parce qu'on en a pour la semaine et la semaine prochaine aussi. Paul Journet, Carl Bélanger, merci à vous deux.
Merci. Salut. À demain.